Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai bien grandi dans cette église. Depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, j'étais membre de cette église. J'ai fait toute l'école du dimanche ici. J'ai donné mes premières prédications dans cette église. J'ai guidé la louange pendant 4 ans. Ça fait 43 ans que je suis dans les églises de réveil. C'est vrai que ça ne nous rajeunit pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 43 ans? Ben, il le disait, hein, un petit garçon turbulent. On va le voir dans le message, il y a des choses qui ont changé. Amen! On grandit avec Dieu, on vieillit, on garde un peu de sagesse, on apprend ici, on se transforme, on a des enfants, tout d'un coup on se pose des questions sur soi-même. Puis le Seigneur, il nous conduit plus loin. Si on le veut bien, si on est d'accord. Vous savez, je me faisais une réflexion cette semaine encore. Je dis, si tu veux grandir avec Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, il y a une chose que tu dois switcher dans ta tête. Être toujours capable de te remettre en question. Toujours. Tout ce que j'ai compris, est-ce que c'est vraiment ancré dans le roc? Est-ce que j'en ai fait des dogmes? Ou est-ce que je suis prêt à remettre en question ce que je crois avoir compris pour aller plus loin avec le Seigneur? Est-ce que je suis arrivé? Ah non. Bien sûr que non. Je serai arrivé quand je serai là-haut, avant. Laisse-moi apprendre encore. Laisse-moi grandir avec Dieu. Laisse-moi aller un peu plus loin, comme le dit la Bible, de gloire en gloire, progressivement. Je ne suis pas arrivé. Hé, 43 ans dans les églises, t'imagines? Oh, punaise, ça fait plus de 20 ans que je suis baptisé. Hein? Je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue, je prophétise, blablabla, blablabla. Rien à cirer. Ce n'est pas comment j'ai commencé qui est important. C'est comment je termine. Qu'est-ce qui est important pour le Seigneur? C'est que jour après jour, je marche avec lui. Mais est-ce que je m'enlise dans ce que je crois avoir compris ou est-ce que je veux continuer de marcher avec le Seigneur pour m'amener là où lui veut? Est-ce que j'ai compris tout le plan incroyable que le Seigneur il a placé devant mes pas pour l'atteindre un jour, pour y marcher vraiment un jour? Et c'est un des thèmes qu'on va aborder ce matin. C'est intéressant. Vous savez, j'ai vécu une révolution dans ma vie il y a... C'était quoi? Ça fait 13 ans maintenant, pas encore tout à fait 13 ans. Une véritable révolution dans ma vie qui m'a fait passer d'une vie très tranquille, calme, on va dire un peu moyenne, à tout d'un coup, celui que je suis aujourd'hui, puis je n'ai pas fini de grandir, hein, je peux dire, vous verrez, il y a encore deux, trois témoignages que je vais vous donner, mais un jour, je me suis retrouvé devant Dieu, comme ça, enfin assis dans mon lit, on va dire, hein, puis je dis, Seigneur, cette vie m'ennuie profondément. J'étais marié, deux enfants, je vais à l'église, tranquille, tout va bien. Je suis sûr de mon salut, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais cette vie m'ennuie, tu peux me prendre cette nuit, je rentre à la maison, je n'ai plus besoin. Ça ne sert à rien ici. C'est pas une vie, c'est à quoi bon? Bon, t'es sauvé, puis voilà. Ben, si t'es sauvé, pourquoi rester ici, hein, franchement? S'il n'y a pas quelque chose qui vient t'accrocher, alors il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque, c'est, vous savez, quand il y a des gens qui donnent leur témoignage juste avant le baptême, ils disent « Le Seigneur, il a donné un sens à ma vie. » Ben, c'est marrant, la suite, elle vient jamais. Ou rarement. Un sens à ma vie? Dis, je veux savoir. Il a donné quoi comme sens à ma vie? C'est quoi le sens? C'est quoi la direction? C'est quoi l'ordre? Il y a un sens à ma vie. Oui, maintenant je sais pourquoi je suis sur Terre. Oui, ben dis-moi. Moi, je veux savoir. Parce que ça a été ma question pendant des années et des années et des années. À quoi je sers? Pourquoi je suis là? Il y avait une raison à ça. Ma question pour chacun d'entre nous ce matin. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Ça sert à quoi la vie? Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me donne enfin une réponse. Une réponse que je peux mettre devant moi chaque fois que j'ai des doutes, quelque chose qui devient clair dans ma vie, dans ma marche avec le Seigneur, dans ma marche avec ma famille, dans ma marche au travail. Je sais pourquoi je suis là. J'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit, tu peux me reprendre, tu n'as pas de problème. Si tu veux que je reste, montre-moi les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour que je les accomplisse. Et il m'a répondu. mais il m'a pas répondu comme je pensais. Quand tu lis ce verset, les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que tu les accomplisses, c'est quoi le thème? C'est quoi que tu vois? C'est quoi que tu imagines? Prêcher devant des foules, guérir des malades, chasser des démons, ressusciter des morts? C'est quoi qu'on imagine quand on voit les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les accomplisse? Allez, je vous l'ai déjà donné celle-là. La dernière fois que je suis venu, la fois déjà donnée. C'est quoi la réponse du Seigneur? Passe plus de temps dans ma présence. Point. C'est les mots exacts que le Seigneur m'a donnés quand j'ai posé cette question, montre-moi. Les mots exacts. Je sais que je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a parlé. Ça s'est tellement imprimé fort. Et ma réaction, j'aurais pu dire, mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Non, ma réaction, c'est waouh, ça je peux faire. À faire, on est encore dans le faire, mais mis à part ça, tu commences par sérieusement fixer des rendez-vous avec Dieu tous les jours. Pas 25, 50, 80 minutes. Non, on s'en fiche ça. Plus de temps dans ma présence. Il n'y a pas un minimum, un maximum, quelque chose comme ça. Déjà, juste augmenter le temps que tu passes avec Dieu. Mais ça change la vie. J'ai changé de travail. Je suis arrivé chez ACP. C'était il y a maintenant 10 ans. Les choses ont changé beaucoup. Je suis arrivé chez ACP. J'ai commencé à prêcher. Je prêche plus de 25 fois par an. J'ai le micro maintenant. C'est moi qui enseigne. J'enseigne quoi? Ce que le Seigneur m'a donné. Je ne le faisais pas avant. Pourquoi? Plus de temps dans la présence de Dieu. Tu veux venir ici devant? Tu n'arriveras pas si tu ne passes pas plus de temps dans la présence de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et les choses, elles changent tout de suite. Clac, boum, 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 boum. Les choses, elles se mettent en place. C'est impressionnant. Le Seigneur, il veut juste une relation avec chacun d'entre nous. Une relation avec moi, personnelle. Une relation avec toi, personnelle. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il veut cette relation. Tout ce qu'il a fait, Jésus qui l'a envoyé sur terre, ça a un seul but. Relation. J'étais en Afrique du Nord et mon partenaire en Afrique du Nord, il me dit, si tu dois mettre un mot pour résumer la Bible, c'est quoi? Je commence à chercher, voir un peu. Puis j'en ai pris trois, puis je me dis, bon, ça c'est pas tout à fait ça, ça conduit à ça. Là. Une idée? Un mot pour résumer la Bible. Amour, relation. C'est deux des trois que j'avais trouvés. Un mot pour résumer la Bible, c'est relation. Tout ce qui a été fait, c'est pour construire des relations. Relations entre les générations. Relations entre les peuples. Relations Dieu-homme. Relations homme-Dieu. Relations père-fils. Relations, relations, relations. Relations entre Dieu et Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tout ce qu'il a fait, c'est pour des relations. Parce qu'il nous aime. Ça change la vie. Puis un jour, progressivement, continuant de marcher avec Dieu, j'étais un matin en train de boire mon café et lire le journal. Puis je me dis, mais c'est pas possible, mais ils comprennent rien, mais ces politiciens, mais ils sont complètement à la rue, mais ils voient rien ou bien. Tout ce qu'ils font, ça va dans le sens contraire de ce qu'éventuellement on pourrait avoir. Mais ils sont nuls ces gens. Jésus, tu ne veux pas revenir remettre un petit peu d'ordre dans ce chaos, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et le Seigneur, il me répond tout de suite, je n'ai pas posé de question, j'ai juste lui demandé, tu ne veux pas revenir plus vite là? Maranatha, reviens bientôt. Puis il me fait, c'est pour ça que tu es là. Quoi? Rien compris, moi. Il m'a fallu plus de 2 mois pour réaliser, en remettant des liens avec des prophéties que j'ai reçues quand j'étais plus jeune, avec mon cœur, comment il fonctionne, etc. Et le Seigneur répète ce que j'avais déjà dit ici il y a quelques années, je ne sais pas si Eric tu t'en rappelles, j'avais dit le Seigneur revient bientôt et je pense qu'il en revient dans les temps, j'avais dit tant de temps, il s'est passé la moitié du temps depuis que je l'ai dit et j'avais même dit j'espère peut-être que tu pourras le revoir revenir et tu es toujours là et ça me fait plaisir de te voir. Le Seigneur revient bientôt et le Seigneur me donne un mandat. Et ce mandat, c'est préparer le chemin du Seigneur et de le répéter encore et toujours. Soyons prêts, parce que le Seigneur revient bientôt. Vous avez vu ce qu'on a lu, on a chanté tout à l'heure? Je n'ai qu'un désir, être saint. Est-ce que c'est vraiment mon désir? Est-ce que vraiment le lundi, le mardi, le mercredi, je veux vraiment marcher dans la recherche de la sainteté sur Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie? Est-ce que c'est vraiment ça mon désir? Ou est-ce que oui, c'est un joli chant le dimanche matin? Et la sainteté, c'est un gros mot. C'est violent ce que le Seigneur nous demande. Est-ce que c'est vraiment mon désir? Parce que si je marche dans ce chemin-là, je ne peux pas être faux. Jésus revient et il vient rechercher une église sans tache ni ride. Amen! C'est difficile ça. Non, j'y arriverai pas par mes propres forces. Impossible, oublie, laisse tomber. Mais tu es mon sauveur. Je lève les yeux. On l'a chanté aussi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul es mon Dieu. Je proclamerai. Et je proclame quoi? Il est mon sauveur. Il est celui qui me change. Il est celui qui me transforme. Il est celui qui me secourt quand il y a la tentation qui se pointe. Il est l'Éternel. Alléluia! Mon rédempteur vit. Bon, on a tout chanté, tout ça. Bon, voilà, la prédication, elle est bonne. On voit les liens qui entre les chants. On voit ce que le Seigneur, il veut dire ce matin. Punaise! Jésus revient bientôt. C'est le temps pour être semblable à Christ. C'est le temps pour lui ressembler. Et ça, on n'a jamais vraiment fini. Non. On y arrivera. Non, on n'y arrivera pas. Ça ne fait pas rien. On avance. Pas grave. On avance. Un pas après l'autre. Chacun à sa vitesse. Chacun à son rythme. Et ça ne pose pas de problème. Toi, tu as fait un bond gigantesque en avant. Alléluia. Moi, j'avance petit peu par petit pas. Et alors, il est où le problème? Tu avances. Tu tombes, tu te relèves, tu recommences, tu repars. Alléluia. Merci Seigneur. Un petit peu plus. Je ne suis plus le même qu'il y a 10 ans. Gloire à Dieu. Je ne suis plus petit garçon turbulent. Oh, j'ai toujours beaucoup d'énergie. Mais je ne suis plus le petit garçon que j'étais avant. J'ai changé. Merci Seigneur. On grandit. On évolue. On mature. Alléluia. Il ne nous laisse pas dans notre situation. Il nous fait grandir à sa lumière, à sa gloire, à son image. Gloire à Dieu. On peut mettre le PowerPoint, s'il vous plaît. Alors, je travaille depuis maintenant 10 ans. Pour l'organisation ACP, Action pour les chrétiens persécutés, les personnes dans la détresse. C'est une organisation qui est née en Allemagne en 1972 pour répondre à un cri de détresse des pasteurs roumains de l'autre côté du rideau de fer. Et ces pasteurs allemands ont décidé de répondre à cet appel en faisant connaître la situation des églises de l'autre côté du rideau de fer. Parce que les gens ne le savaient pas. En Occident, les gens ne le savaient pas. Et ils ont fait des démarches dans les villes en Allemagne, et puis ils ont manifesté devant les ambassades, et puis ils ont essayé de faire connaître cette situation-là. Il y a des mouvements entiers de prières qui se sont mis en place à travers le monde entier pour faire tomber le mur. Est-ce que vous croyez que la prière est efficace? Le mur est tombé. Amen. Alors, quand le mur est tombé, fin 89, il y a des gens qui sont approchés de l'équipe de pasteurs. Je lui ai dit, bah maintenant c'est bon, la persécution c'est fini. Vous allez faire quoi maintenant? Quand j'ai commencé chez ACP, on parlait de 100 millions de chrétiens persécutés à travers le monde. 100 millions. Aujourd'hui, on parle de, quelqu'un a une idée? 360 millions. Fois 3,6 en 10 ans. 360 millions, ça fait 5% de la population mondiale. Ça fait plus de 40-45% des chrétiens nés nouveaux au monde. Tu regardes ton voisin puis tu dis, voilà, lui, il est persécuté. Incroyable. Hein? Mais pourquoi la persécution? Ils ont quoi dans la tête, les gens, à taper sur des chrétiens? C'est quoi le but? Pourquoi la persécution? Quelle est l'idée qu'il y a là derrière? Jean nous donne un aperçu absolument fantastique dans l'ouverture de son évangile. Au commencement était la parole, en elle il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Il sait qui, celui-là ? Le monde n'a pas reconnu celui qui l'a façonné. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Verset 14, la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia. Cette lumière, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Il est venu dans le monde, il nous a montré l'exemple. Donc Jésus, c'est la lumière. Mais bizarrement, Jésus ne s'est pas arrêté là. Il nous a confié une mission. Matthieu 5, 14, 16. Vous êtes la lumière du monde. Hein ? On n'a pas compris là. Non, c'est toi la lumière. Non, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. Ce n'est pas marqué votre beau témoignage avec des mots et des paroles et vos prédications du dimanche matin. Non, c'est marqué qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, je dis Philippiens 2, 15, 16. Brillez. Saint François d'Assise va dire, allez dans le monde, prêchez l'évangile et, si vous en avez besoin, utilisez des mots. Brillez. Intéressant, hein ? Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Question. Mais qu'est-ce qu'on en a fait ? Acte 9, on saute un peu. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et emmener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait hommes ou femmes. Comme il était en chemin, il s'approchait de Damas. Tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. C'est quoi le lien entre le premier et le deuxième texte ? Mais où on va ? Vous avez vu le titre du message ? Persécuteur de Christ. Voilà un homme juif, érudit, éduqué dans la foi de ses ancêtres, qui a grandi au pied du grand prêtre, homme passionné et intelligent, persuadé d'aimer Dieu et de l'honorer. Paul, Saul à l'époque. La persécution de l'Église de Christ à travers l'histoire ressemble étrangement à la première persécution de l'Église tout court, des hommes de Dieu qui persécutent des hommes de Dieu. Aïe ! Quelle tristesse ! Encore aujourd'hui, dans de nombreux pays, les églises dites libres sont persécutées, voire même très violemment par endroits, par des églises plus historiques. Quelle tristesse ! Et juste pour qu'on comprenne pas mal, on aurait vite tendance chez nous à dire « Oui, oui, bon, on peut penser à tel cas historique qui fait partie de notre propre passé, ici en Suisse. » Et on accuse facilement toujours les mêmes. L'Église catholique contre les réformés contre les anabaptistes contre les autres. Puis les évangéliques là-dessus, on est au-dessus de tout le monde. Pouf ! À critiquer tout le temps l'Église d'à côté. vachement bien, hein ? N'arrive même pas à se respecter entre les différents mouvements évangéliques, tu parles. Waouh ! La division couve entre les dénominations plus traditionnelles et plus charismatiques au sein de la même ville, alors que Jésus nous appelle à l'unité dans sa prière qu'il fait dans Jean 17, qu'il soit un comme nous sommes un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Waouh ! Alors attention, je ne parle pas d'écuménisme bon marché. Faire gaffe, il est juste de se battre pour la vérité. La réforme, elle a amené des vraies bonnes choses. Amen. On ne va pas cracher dessus. Mais est-ce que ma vérité, c'est vraiment la vérité ? Ce n'est pas parce que moi j'ai compris quelque chose que les autres sont des ignorants. Je dois me replacer devant Dieu. L'histoire de Paul nous parle d'un changement radical. Profondément secoué par ce qu'il vient de vivre, Saul va passer 3 jours sans boire ni manger. Imagine la situation. Le gars, il est dans une chambre, enfermé, il ne veut ni boire ni manger. Il a eu une vision, il a entendu une voix, un truc qu'il ne comprend pas, et il a toute sa théologie dans la tête. Et Jésus qui lui dit, je suis celui que tu persécutes. Je dis, mais attends, Et lui, tous les textes de l'Ancien Testament, il les connaît par cœur, le gars. C'est un pharisien. Il sait exactement, il connaît tout. Il doit y avoir une lutte immense dans son cœur. J'ai halluciné, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, mais de toute façon, c'est qui Jésus ? Il se prend pour qui ? Et puis tout, puis la loi, elle dit, et puis ça. 3 jours, il a dû y avoir un combat dans son cœur, jusqu'à ce que finalement il finisse par capituler en se rendant compte, et l'esprit aidant, puisque Dieu veut a un plan pour sa vie, l'esprit aidant pour qu'il finisse par se rendre compte que ce Jésus, c'est celui annoncé par les prophètes. Ah ! Ben, il était passé à côté, mais le Seigneur est bon, le Seigneur lui fait grâce. Et Dieu va envoyer Ananias pour accueillir Saul et le conduire dans la vérité et lui expliquer ce qu'il n'a pas encore compris. Mais t'imagines Ananias ? D'ailleurs, le texte nous le dit. Hein. Oui, il faut aller rencontrer Saul de Tarse. Là. Mais ça ne va pas, Seigneur, celui-là, il veut tous nous prendre et tous nous enfermer et puis tous nous tuer. Puis Dieu qui lui dit, vas-y, s'il te plaît, j'ai un grand plan pour sa vie. Ah ! Et ça arrive encore aujourd'hui. Des gens qui, touchés par l'esprit, reçoivent quelque chose. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de cet homme de Dieu dans un pays dont je tairai le nom parce qu'on est en ligne, qui reçoit une vision. Dans cette vision, il voit le nom d'une rue. Et cette rue-là, il ne la connaît pas. Et à côté du nom de la rue, il voit un numéro. Il ne sait pas quoi faire avec ça. Alors il va voir ses copains. Puis un de ses copains lui dit, mais certainement que tu as une vision de Dieu parce que cette rue-là, elle existe bien dans notre ville et c'est dans tel quartier. Peut-être qu'il faudrait que tu t'y rendes. Mais moi, je ne connais personne là-bas. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire ? Ben, je ne sais pas. Alors, il se met à prier et il décide effectivement d'aller à cette rue, vers cette maison le matin. Évidemment, il décide d'y aller par un bon matin, il est 7 heures du matin, tranquille, il n'y a encore personne dans les rues. Il arrive dans cette rue qu'il trouve, il trouve la maison. Il prend son courage à 2 mains, elle appuie sur la sonnette. Une porte s'ouvre, un imam sort la tête. Qu'est-ce que je veux ? J'ai une vision avec votre rue et votre numéro. Je suis serviteur du Dieu de la Bible et j'ai l'impression que je dois vous parler de lui. L'imam sort un peu plus la tête, regarde à gauche, à droite, s'il n'y a personne dans la rue. Il lui dit « Entre !» Tac ! Et il ferme la porte derrière lui, pris au piège. Et il le conduit à l'étage. Et là, 10 imams en prière qui supplient Dieu de leur envoyer quelqu'un pour leur expliquer la Bible. Merci Seigneur pour les Ananias. Amen. Dans le cas de la persécution, on peut avoir tendance, en tout cas sous nos latitudes, à faire un raccourci malheureux où on dit, là où il y a la persécution, l'Église grandit. Il faut faire attention avec ça, on ne veut pas angéliser la persécution. Regardez ce que dit le révérend Lal, secrétaire général de l'Alliance évangélique d'Inde. À travers le monde entier, dans les cercles chrétiens, on affirme que lorsque la persécution éclate contre les chrétiens, l'Église grandit. Ce n'est pas juste. Si l'Église grandit, cela dépend toujours de la réaction des chrétiens face à la persécution. Et Georges Müller, l'inventeur de l'école du dimanche, a dit « Si nous voulons que notre voix soit fortifiée, nous ne devrions pas reculer devant les occasions où notre foi peut être éprouvée et donc, par l'épreuve, fortifiée. » Pas facile à accepter. Ananias est donc un bon exemple de réaction. Mais il y a nombreux cas où il ne faut qui sont différents. Il y a des gens qui abandonnent la foi. Il y a des gens qui dénoncent d'autres pour sauver leur vie. Est-ce qu'on va leur jeter la pierre ? Oh non ! Jésus a pardonné à Pierre, non ? Et on ne sait pas si les gens vont pas revenir à Jésus par la suite. Le Seigneur sait, ce n'est pas à nous de juger. Mais revenons à notre Saul, spécialiste des Écritures, persuadé qu'il connaît toute la vérité. Son exemple me touche aussi, personnellement. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 43 ans que je suis dans les églises de réveil, n'est-ce pas ? Moi, je sais comment ça se passe. Je suis un vieux. J'ai l'expérience. Mais il y a quelque chose chez Saul qui me parle. Il va devenir Paul, reconnaissant qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. On reviendra au film après. Je vous ai transmis, c'est celui-là, Je vous ai transmis avant tout le message que moi aussi j'ai reçu. Christ est mort pour mes péchés, pour nos péchés, conformément aux Écritures. C'est marrant, il va répéter ça, conformément aux Écritures. C'est-à-dire que, connaissant la parole, il confirme ce qu'il a compris. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Cephas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voici le message que nous prêchons, voilà aussi ce que vous avez cru. Chers amis, ne suis-je pas moi aussi parfois persécuteur de Christ ? Moi-même chrétien de longue date, baptisé, né nouveau, prédicateur de l'Évangile, ne suis-je pas moi aussi par moments persécuteur de Christ et de l'Église de Christ ? Comme on l'a vu tout à l'heure lorsque je critique l'Église d'à côté, lorsque je critique un membre de l'Église derrière son dos, lorsqu'en mission je pense mieux savoir que les locaux que je suis censé servir, lorsque je me comporte différemment à la maison que le dimanche matin, lorsque j'insulte l'arbitre dans un match de mes enfants pour une faute qu'il n'a pas commise, qu'il n'a pas vue, lorsque je manque de respect envers un collègue ou un élève, si je suis enseignant, lorsque j'humilie ma femme ou mon mari en public ou en privé, lorsque je manque d'amour et de compassion envers mes enfants, lorsque je pêche contre Dieu dans le secret ou même ouvertement. Christ déclare, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rend humble comme ce petit enfant sera plus grand, le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Punaise, il est cash, Jésus. Il est violent. Est-ce que je persécute l'Église de Jésus ? Les cas d'abus de toutes sortes dans les églises qui sont sortis ces derniers temps dans les journaux sont aussi une forme de persécution de Christ, n'est-ce pas ? Et aussi contre son Église. Et ça n'arrive pas que chez les catholiques. Ces choses attisent le ressenti des non-croyants contre l'Église et contre tout ce qui est religieux. Attention à nos comportements. Mais il y a un bon message quand même. Paul a changé. Même si son tempérament de feu peut découvrir en relisant les actes et ses lettres, est toujours là, il ne sert plus le même dessein. Paul est toujours resté celui que Dieu a créé, mais il a été transformé, façonné. Comme il a dit, sa grâce envers moi n'a pas été sans effet. Il y a donc possibilité de changement. Amen. Là où j'en suis aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Ça peut changer. Amen. Oh Seigneur, j'ai de la peine à expécher. Hein. Mais ça peut changer. Alléluia. Personnellement, je suis aussi un gaillard un peu fougueux, réactif, voire même sanguin. Mais non plus, je ne suis plus le même qu'il y a 10 ans. Gloire à Dieu. Progressivement, Dieu m'a permis de réaliser qu'il y avait des choses à changer dans ma vie, qu'il y avait du boulot et que lui ressembler était probablement un bon but à pourchasser. Et un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait, c'était l'an dernier, à Noël. L'an dernier, 2022, à Noël. Quand un de mes fils m'a dit « Papa, c'est vrai qu'il y a du changement. Tu cries beaucoup moins à la maison. » Yes, 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 yes. Quand tes proches voient la différence, yeah, c'est beau ça, hein? Amen. Et comme Paul, je peux moi aussi le dire. Par la grâce de Dieu, pas par mes efforts. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans effet. Parce que je l'ai laissé faire. Parce que je suis volontaire. Parce que j'accepte qu'il travaille mon caractère. Et des fois, ça fait mal. Mais ça change la vie. Amen. Ça donne la banane. Oui, ça fait pleurer peut-être un peu. C'est pas plus mal. Ça change la vie. Alléluia. Jésus nous invite sur ce chemin de grâce tous les jours. Suis-je prêt à accueillir les appels du Saint-Esprit à la, attention gros mot, sanctification? Reconnaissant pour sa grâce envers moi, en marchant dans son sentier, toujours plus, est-ce que moi aussi, après ce chemin-là, j'aurai la grâce pour ceux qui me font du mal? Si un frère a péché contre toi, reprends-le et tu auras gagné un frère. Mais avec amour, parfois avec fermeté, mais avec amour. Parce que Dieu m'a pardonné, je pardonne aux autres aussi. C'est pas facile, hein? Avoir de la compassion pour mes persécuteurs, pour pouvoir dire comme Jésus, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou comme Étienne, on va dire, il est plus humain hein, quand même. Hein? Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ou bien comme le frère Pasteur B, qui est décédé il y a 2 ans maintenant, 9 mois dans des prisons, fracassé, mais vraiment fracassé parce qu'il était devenu chrétien et qu'il osait prêcher l'évangile à ses concitoyens. 9 mois en prison où on l'a torturé, il était capable à un moment donné de lever les yeux envers celui qui le frappait et lui dire « Je t'aime parce que Jésus t'aime ». Wow ! Eh bien, Seigneur, chez moi, il y a encore du chemin, hein ? Mais c'est possible par la grâce de Dieu. Et en ce dimanche où on parle de l'Église persécutée, j'aimerais peut-être aussi nous inviter à ne pas oublier les persécuteurs pour que, voyant la force, l'amour, la conviction, la foi des enfants de Dieu, ils puissent eux aussi se tourner vers Jésus comme l'a fait Paul et que de nouveau Paul se lève, plein de feu pour le royaume, pour Jésus, pour l'Évangile. Et j'aimerais terminer par ce magnifique exemple que vous trouverez dans ce film-là. Comment, rempli de l'amour de Christ, on peut changer les choses autour de soi. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne et vous permette, vous aussi, de marcher toujours plus proche du Seigneur avec son aide et que sa grâce envers chacun d'entre nous ne reste pas sans effet. Amen.